VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 6 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition,
Boko Haram a perpétré un autre massacre cette semaine au Nigeria.
L'Union européenne exhorte publiquement le président burundais à ne pas briguer un troisième mandat.
Poursuite aujourd'hui à Addis Abeba des pourparlers sur le Soudan du Sud, l'impasse entre Salva Kiir et Riek Machar persiste.
Abu Humam al-Shami, chef militaire du front al-Nosra, a été tué hier en Syrie.
Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, rassure les États du Golfe quant à un éventuel accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Des militants présumés de Boko Haram ont attaqué un village dans le nord-est du Nigeria et tué au moins 68 personnes. Des témoins ont dit à un reporter de la Voix de l'Amérique que l'attaque contre la communauté de Ndjaba, dans l'état de Borno, a eu lieu avant l'aube mardi.
Selon Aminatour Momodou, une habitante du village, les femmes ont été épargnées, mais tous les hommes et même les garçons âgés de 12, 13 et 14 ans ont été tués. Elle ajoute que les femmes qui s'étaient cachées dans la forêt lors de l'attaque sont revenues pour dénombrer 68 corps. Les assaillants ont usé de balles ou simplement égorgé leurs victimes. Le village de Ndjaba est situé dans une région reculée de l'état de Borno, ce qui explique pourquoi la nouvelle n'est parvenue à Maïdougouri, la capitale, que 48 heures après.
Cette attaque est similaire aux raids de Boko Haram sur d'autres villages et localités du nord-est du Nigeria, où la violence s'est intensifiée à la suite de l'offensive lancée par le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun pour reprendre les secteurs occupés ces deux dernières années par Boko Haram.
Le représentant de l'Union européenne au Burundi, Patrick Spirley, ne souhaite pas une candidature du président burundais, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat à la présidentielle de juin. Le diplomate a mis en garde contre des risques de troubles, Jean-Roger Bion.
Les tensions croissantes au Burundi à l'approche des élections se cristallisent notamment autour de l'intention prêtée à M. Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Pour l'opposition, cela est inconstitutionnel, ce que réfute le camp présidentiel. M. Spirlet, représentant de l'Union européenne au Burundi, accompagné des ambassadeurs allemands, belges et français, a présenté la position européenne à l'issue d'un dialogue entre l'Union européenne et le Burundi. De nombreuses voix se sont exprimées par rapport à la question du troisième mandat et nous avons exprimé notre souhait au gouvernement que ces voix soient écoutées, a déclaré le diplomate européen. La communauté internationale s'inquiète publiquement depuis plusieurs mois des tensions à l'approche des élections, mais c'est la première fois que l'Union européenne prend position sur la question d'un nouveau mandat du président sortant.
L'émissaire spécial des Nations Unies en Libye est convaincu qu'un accord de paix est possible entre les parties en conflit. Parlant après la reprise des pourparlers de paix interlibyens hier au Maroc, Bernardino León s'est dit plus optimiste que ces derniers mois. Accompagné des médiateurs de l'ONU, il a rencontré séparément les délégués du gouvernement libyen et des extrémistes islamistes qui se sont emparés de Tripoli, la capitale, pour y établir un pouvoir séparé. Bien qu'il n'y ait jamais eu de face-à-face entre les protagonistes lors des trois précédents rounds de pourparlers, les officiels onusiens espèrent pouvoir organiser des entretiens directs entre les deux parties.
En revanche, c'est l'impasse à Addis Abeba dans la dernière série de pourparlers entre le président Salva Kiir et son rival et ex-vice-président Riek Machar pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud. À l'expiration jeudi de l'ultimatum de l'IGAD, les médiateurs ont prolongé les négociations qui seront axées aujourd'hui sur le partage du pouvoir. L'espoir était de boucler les discussions hier et de former un gouvernement de transition d'ici avril. Les combats qui ont commencé en décembre 2013 ont fait des milliers de morts, quelques 2 millions de personnes déplacées et 4 millions d'autres qui dépendent de l'assistance alimentaire étrangère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et si aux États-Unis, les autorités ont averti hier la police et le public de la nécessité d'être vigilants face aux tentatives du groupe État islamique de recruter des candidats au terrorisme à travers Internet. Cette mise en garde a été lancée par le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure, dont un officiel a dit à l'AFP « Nous restons préoccupés par les efforts de recrutement faits par l'État islamique, particulièrement par le biais des médias sociaux, et nous invitons le public à la vigilance et l'exhortons à signaler aux forces de l'ordre toute activité suspecte. » La veille mercredi, le Washington Post avait signalé que le FBI avait arrêté un étudiant de 17 ans dans la banlieue de Washington pour avoir, dit-on, utilisé Internet afin d'aider un homme à aller se joindre aux djihadistes de l'État islamique en Syrie. Le FBI n'a donné aucun détail sur ce cas.
Abu Humam al-Shami, chef militaire du front al-Nusra, a été tué hier lors d'une attaque qui ciblait apparemment une réunion au sommet des dirigeants de cette branche syrienne d'Al-Qaïda. Plusieurs autres membres d'al-Nusra ont été également tués. Selon les médias d'État syriens, les forces gouvernementales ont lancé ce raid contre ces militants islamistes dans la province d'Idleb. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a de son côté annoncé qu'Abu Humam al-Shami a été tué, mais sans préciser par qui.
Un coup sévère et très douloureux a été porté à al-Nusra, a déclaré un responsable du groupe. Pour rappel, al-Nusra est moins connu que son rival, le tristement célèbre groupe État islamique. Il tente de renverser Bachar al-Assad et de créer un émirat dans le nord de la Syrie. Il a été aussi ciblé par les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré des représentants des États du Golfe jeudi en Arabie Saoudite. C'était pour calmer leurs préoccupations au sujet d'un accord sur le nucléaire iranien. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
John Kerry est arrivé à Riyad mercredi soir après 3 jours de discussion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, en Suisse, visant à parvenir à un accord cadre avec Téhéran au plus tard le 31 mars. Les alliés du Golfe, en particulier le Royaume saoudien, craignent qu'un accord nucléaire ne soit pas suffisant pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme atomique. Ils craignent également un allègement de la pression internationale sur Téhéran, ce qui lui laisserait les coulées franches pour intervenir davantage dans les questions régionales. Le chef de la diplomatie américaine a cherché à les rassurer. Même si nous nous engageons dans ces discussions avec l'Iran autour de ce programme, a dit M. Kerry aux journalistes, nous n'allons pas détourner notre attention des actions de déstabilisation de l'Iran dans des endroits comme la Syrie, le Liban, l'Irak et la péninsule arabique, le Yémen en particulier. Le groupe 5+1, réunissant la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et l'Allemagne, s'efforce de trouver un accord qui empêcherait Téhéran, rival régional de Riyad, de fabriquer une bombe nucléaire. Lors de cette visite en Arabie saoudite, John Kerry devait rencontrer le roi Salman de la maison ancestrale de la famille Saoud. D'autres sujets de discussion incluaient la situation au Yémen et la lutte contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie.
Ici aux États-Unis, la famille de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier à Ferguson, une banlieue de Saint-Louis dans l'État du Missouri, en août 2014, compte porter plainte au civil contre le policier et la ville. Les précisions de Michel Joseph.
L'avocat de la famille a annoncé cette décision lors d'une conférence de presse hier. Nous voulons montrer, comme nous l'avons toujours estimé, que le policier Darren Wilson n'avait pas à tirer et tuer Michael Brown en plein jour, comme il l'a fait, et qu'il avait d'autres choix, a expliqué Maître Anthony Gray, que cite l'AFP. Maître Daryl Parks, un autre avocat de la famille, a précisé que la plainte visera le policier Wilson et la ville de Ferguson. Mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il n'allait pas poursuivre le policier Darren Wilson parce qu'il n'a pas constaté de sa part un comportement susceptible de poursuite judiciaire. Dans le même temps, le ministère a publié un rapport accablant faisant état de pratiques racistes généralisées de la police de Ferguson. La mort de Michael Brown le 9 août 2014 sous les balles de Darren Wilson avait donné lieu à des semaines d'émeutes violemment réprimées par la police.
Avec 800 navires privés déroutés pour secourir 40 000 migrants en mer en 2014, L'industrie maritime a eu à gérer un fardeau disproportionné, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À l'issue d'une conférence de deux jours à Londres réunissant des ONG, des agences de développement et la marine marchande, le constat est sans appel. En 2014, 800 navires privés ont dû se dérouter pour venir au secours d'immigrants clandestins pour un coût estimé entre 50 000 et 80 000 dollars pour chaque propriétaire de navire.
Et maintenant, la Minute Éco et les sports avec aujourd'hui Timothée Donangmaï. Pour commencer, la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire, qui a connu des récoltes historiques de cacao en 2014, doit éviter le démon de la surproduction, a averti hier l'Organisation internationale du cacao pour le marché mondial. Il est difficile, voire impossible, qu'une production nationale passe d'1,3 million à 1,74 million de tonnes de cacao. 400 000 tonnes de plus, c'est énorme, a mis en garde hier Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO que cite l'AFP. Le président Barack Obama encourage les réformes en Tunisie en vue de relancer l'économie nationale et pérenniser les progrès démocratiques dans ce pays. Dans un message vidéo adressé hier aux Tunisiens à la faveur de la conférence sur l'investissement et l'entrepreneuriat à Tunis, le chef de l'exécutif américain a notamment déclaré « Comme vous, nous savons que la démocratie a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais aussi de croissance économique, d'opportunités pour que les citoyens constatent que la démocratie peut conduire à une vie meilleure. » Enfin, les compagnies aériennes American Airlines, Delta Airlines et United Airlines accusent leurs trois concurrents du Moyen-Orient, à savoir Qatar Airways, Etihad Airways et Emirates, d'avoir reçu 42 milliards de dollars de leur gouvernement en violation des lois de l'Organisation mondiale du commerce. Selon l'AFP, elles ont publié un rapport d'accusation de 55 pages demandant au gouvernement américain d'ouvrir des consultations avec le Qatar et les Émirats à ce sujet et aussi de geler l'attribution de nouveaux vols aux trois compagnies visées.
À présent, les sports team. Pas d'inquiétude pour la Coupe du Monde de football 2022. Le Qatar l'organisera quel que soit le calendrier retenu.
Hassan Al-Tawadi, le président du comité d'organisation du Mondial 2022, en a donné l'assurance hier. Le groupe de travail de la FIFA a recommandé le 22 février au Qatar que le tournoi se joue en novembre et décembre, mois les plus cléments dans ce pays, pour éviter l'implacable chaleur de juin et juillet lorsque la température dépasse les 40 degrés Celsius. Le comité exécutif de la FIFA se réunira les 19 et 20 mars à Zurich pour prendre la décision finale.
Avant cela, Vladimir Poutine veut limiter les dépenses du Mondial 2018 en Russie.
Alors que la Coupe du Monde 2014 avait provoqué de graves émeutes au Brésil, le président russe Vladimir Poutine a annoncé vouloir économiser plus d'un milliard d'euros sur l'organisation du prochain Mondial en 2018. Selon le journal espagnol AS, cette annonce contraindrait Sepp Blatter à revoir certaines de ses exigences à la baisse. Le président de la FIFA aurait, par exemple, autorisé la Russie à construire deux stades de moins de 45 000 places, ceux de Kaliningrad et d'Ekaterinbourg, qui ne pourront accueillir que 35 000 spectateurs.
En Europe, le Sénégalais Papi Cissé de Newcastle United s'expose à une sévère sanction.
Il a reconnu avoir craché sur le défenseur Johnny Evans de Manchester United en match de Premier League mercredi. La nature de la punition n'est pas encore connue, mais les médias disent que Cissé pourrait écoper d'une longue suspension. L'incident en question, qui s'était passé à l'insu des officiels du match, avait été enregistré par les caméras.
Un mot de tennis avec la suite de l'Open malaisien à Kuala Lumpur.
La Danoise Caroline Wozniacki a défait la Chinoise Zhu Lin en 2-7, 6-4 et 6-1 pour avancer en quart de finale où elle croisera l'Allemande Karina Witthoff, victorieuse en 2-7 de la Tchèque Klára Koukalova, 7-6 et 6-0. Autre quart de finaliste à Kuala Lumpur, la Taïwanaise Xie Suwei, qui a sorti par 2-7 à 1 la Japonaise Misa Eguchi. Xie affrontera une étoile montante à la personne de la jeune russe Elisaveta Kulishkova, championne en simple et double de l'Open d'Australie l'année dernière. quelques résultats du championnat nord-américain de basketball, la NBA, pour terminer, Idrissa.
Au moins, ce résultat d'un match qui était fort suivi entre Chicago et Oklahoma City, malgré les 43 points de Russell Westbrook, OK City a perdu face aux Joachim Noah et Pau Gasol, 105-108 pour Chicago.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, à l'approche de la présidentielle du 15 avril, le climat est tendu dans le pays. Pour rassurer les populations qui redoutent des violences en cette période électorale, les organisations de la société civile s'impliquent dans des actions de prévention. Elles organisent des sessions de formation et de sensibilisation pour les différentes couches sociales du pays. Des échos dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ce contexte de tension inquiète les organisations de la société civile qui pilotent des projets pour la préservation des conflits électoraux. Pour le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D, la mobilisation communautaire pour la non-violence s'impose. Mika Fui Akwe, chargée de programme au GF2D.
Nous avons constaté qu'à l'approche des élections dans notre pays, surtout lorsque c'est une échéance présidentielle, il y a un climat de tension, d'inquiétude qui règne dû à des antécédents de violence. Donc il y a toujours cette inquiétude qui plane sur la population et qui justement débouche sur les actes de violence que nous voulons éviter pour cette fois-ci. C'est pour ça que nous avons pensé à un projet de mobilisation communautaire qui nous permet de vulgariser des comportements de non-violence, de paix, de tolérance.
Les leaders communautaires sont mises à contribution par les organisations de la société civile. Togbui Michel Nukafutkoin, chef traditionnel à Lomé, vient de suivre une formation sur la non-violence en période électorale.
Nous sommes dans une turbulence parce que les élections présidentielles s'approchent. Tout le monde ne sait que faire. Les gens ont peur. Alors le rôle des chefs traditionnels est fondamental. Le chef traditionnel ne joue pas le double jeu. Le chef traditionnel ne peut pas dire qu'il faut voter pour celui-ci, pour éviter la violence.
Depuis l'élection présidentielle de 2005, où des centaines de personnes y ont trouvé la mort, à la veille de chaque élection au Togo, des actions sont menées pour un scrutin apaisé. Ces activités de prévention sont interprétées par des observateurs comme pour préserver l'état de fragilité du pays. Sur la question, voici le point de vue de la coordinatrice du système des Nations Unies au Togo, Kardiata Lo Ndiaye.
En réalité, ce ne sont pas les élections qui causent le conflit. Les résultats peuvent contribuer à faire émerger les conflits. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a des conflits latents dans une société qui profitent du contexte électoral pour s'exprimer. Bien entendu, en période maintenant préélectorale, il faut mettre davantage l'accent puisque les germes de conflits sont beaucoup plus apparents du fait de la tension préélectorale.
Pour la non-violence, des internautes togolais s'engagent. Achille Noussia est internaute de paix.
Nous, internautes de paix, nous allons travailler pour amener les internautes togolais, qui ne sont pas forcément des internautes de paix eux aussi, à cultiver les vertus de la paix, à proscrire la violence de leurs actes quotidiens. Dans notre langage, on doit éviter des propos qui attisent la haine, qui appellent à la révolte. Ce travail se fera sur les réseaux sociaux. On a créé un hashtag « Peace for TG ». Puis en anglais comme paix, fort, TG pour la paix au Togo.
Les Togolais se préparent la peur au ventre à choisir leur président pour le prochain quinquennat. 5 candidats sont en liste, dont le président sortant, Fornia Singbe, et le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Kayi Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé, et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Une décision de la Cour d'appel de Paris rendue en janvier dernier a confirmé des accusations de corruption du Niger par le géant du nucléaire Areva. Accusations portées contre la société par l'Observatoire du nucléaire en 2013 lorsqu'Areva a accordé en pleine renégociation de contrat une aide budgétaire au Niger pour l'aider à acheter un avion présidentiel. Cette aide, cette semaine seulement, que la nouvelle est parvenue au Niger, entraînant du coup une salve de condamnation, nous dit notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'annonce de cette décision de la Cour d'appel de Paris confirmant la corruption de l'État du Niger par la société Areva a très vite fait réagir l'opposition politique. Elle demande la démission de 4 ministres dont les responsabilités sont établies dans l'achat de l'avion auquel l'argent a servi. Oumarou Hadari, membre de l'opposition politique.
Il s'agit là d'un acte gravissime qui finit de jeter le discrédit total sur le Niger. Nous voilà malheureusement, du fait de l'entêtement et de la surdité du gouvernement face aux interpellations de l'opposition politique, de la société civile et d'autres acteurs avisés que notre pays, le Niger, classé déjà dernier de la planète en termes d'IDH, se retrouve encore, de par la gestion de Youssouf Mahamadou, au rang des États corrompus et voyous. Face à la gravité de la situation, la RDR constate qu'il s'agit là d'une situation de grave compromission des intérêts nationaux en matière de gestion de ressources naturelles et de sous-sol. Elle exige en conséquence une enquête parlementaire sur le financement et les conditions d'acquisition de l'avion présidentiel, la démission immédiate de Hasmi Massaoud, actuel ministre de l'Intérieur et directeur de cabinet du président à l'époque des faits, de Gilles Baillé, ministre des Finances, de Karidio Mahamadou, ministre de la Défense nationale, et de Omar Hamidou Tchana, ministre chargé de l'île.
Les organisations de la société civile actives dans le domaine des industries extractives se disent également profondément consternées après une telle annonce. Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire.
C'est quand même une grande consternation de pouvoir constater que des autorités démocratiquement élues peuvent tomber dans cette situation de corrompu. Nous pensions bien que là, le gouvernement nigérien doit pouvoir sortir et s'expliquer sur cette question. C'est extrêmement grave de comprendre que, et d'entendre de par le monde entier que notre gouvernement a été faible vis-à-vis de Areva. Et la suite, vous l'avez vu, Areva a pu avoir tout ce qu'ils veulent au Niger. Ils ont décroché le renouvellement de Kominak et de Somaïr, qui jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de signer, pendant que ça a été annoncé en grande pompe en octobre que ça a été signé. Et ça, je vous le dis, Areva aujourd'hui refuse de signer ces conventions. Et ils ont pu aussi mettre en stand-by leur réserve, c'est-à-dire Imouraren.
Le gouvernement nigérien n'a encore pas réagi après l'annonce de cette décision. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En République démocratique du Congo, le lancement officiel de la première récolte du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dans la province de Bandundu, a été effectué hier par le président Joseph Kabila. Au total, 20 000 tonnes de maïs sont attendues à l'issue de cette première phase, nous dit Eric Ambago de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
La première récolte du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo a dépassé toutes les prévisions. En 7 mois, la production est maximale. 20 000 tonnes de maïs attendues à l'issue de la première phase. Le lancement officiel de la récolte a déplacé les principales autorités congolaises. En tête, le chef de l'État, Joseph Kabila. Pour le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, la production du parc de Bukanga-Lonzo est exceptionnelle. Kabwemou.
Pour la première phase de la première année dont la récolte sera officiellement lancée aujourd'hui, a consisté au semis du maïs sur une superficie de 5000 hectares. La production attendue est d'environ 4 tonnes par hectare, soit 20 000 tonnes pour les 5000 hectares. Pour la deuxième phase, une autre étendue de 2500 hectares vient d'être plantée. En septembre de cette année, 10 000 hectares seraient encore plantés, ce qui fera un total de 12 500 hectares de maïs pour cette année. Chaque année, 10 000 hectares seront plantés pour atteindre 50 000 hectares de maïs au bout de 5 ans.
La construction du parc de Bukangalonzo a impacté la vie dans la région. C'est le représentant du groupe sud-africain Africom, gestionnaire du parc, qui l'affirme.
As we said forth to commence with this agricultural revolution, what has been accomplished today here on this piece of land leaves us astounded.
Au fur et à mesure que nous avançons avec cette révolution agricole, ce qui a été accompli à ces jours sur ces sites ne cesse de nous étonner.
We have built more than 200 kilometers of roads.
Plus de 200 kilomètres de routes nouvellement ouvertes.
Permanent housing, which is an ongoing project.
Des maisons en dur sont en cours de construction.
A fresh water supply system.
De l'eau potable.
A fully functional airstrip with hangars that is still in construction.
Une piste d'aviation et des hangars ou des parkings pour les avions.
Outre la plantation du maïs, il est prévu la plantation des légumes sur 1000 hectares pour une production journalière de 500 tonnes. L'élevage des poules et de la viande de bœuf est programmé. Ce parc pilote sera le modèle pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité du vaccin VSV-EBOV contre le virus à Ebola. Ce vaccin a été mis au point par l'Agence de la santé publique du Canada. Il s'agit de déterminer si le vaccin protège les personnes en contact avec des malades souffrant du virus à Ebola et si la vaccination des contacts permet de créer une zone tampon pour éviter la propagation de la maladie. D'autres précisions avec le docteur Marie-Pierre Preziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit des deux candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola qui sont les plus avancés en termes de développement clinique. Donc le vaccin VSV-EBOV, produit par le fabricant Merck, et le vaccin SHAD3-EBOV, produit par le fabricant GSK.
La vaccination va commencer dans quelle région ?
Elle va commencer dans la région de la capitale, Conakry, et dans les préfectures qui entourent la capitale, soit la région de la Basse-Guinée, car c'est là, à l'heure actuelle, qu'il y a les cas.
Et vous allez, bien sûr, vacciner des personnes après avoir demandé leur consentement, etc.
Tout à fait. Oui, il s'agit d'un essai clinique de phase 3, donc une étude clinique de phase 3, qui est faite selon les bonnes pratiques cliniques, qui requiert, bien évidemment, le consentement informé de tout participant.
Les vaccins développés par le Canada ont en fait rapidement émergé comme les outils prometteurs en raison de leur efficacité dans les études sur les primates non humains.
Tout à fait, oui. C'est bien cela. Et il y a eu aussi des études quand même chez l'homme qui ont aussi confirmé une bonne tolérance donc et une bonne immunogénicité. On ne peut pas encore parler d'efficacité. L'efficacité, c'est un terme qu'on peut employer lorsqu'on constate que ça empêche la maladie. Là, on constate qu'il y a une réponse du système immunitaire avec un développement notamment d'anticorps qui sont dans les limites qu'on pense être protectrices, mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit faire un essai clinique de phase 3. Ce qui est important, c'est que là, on doit vraiment retenir notre souffle parce que on pourrait rentrer dans une phase très importante pour cette épidémie et pour les futures épidémies Ebola. C'est que si on peut montrer qu'un vaccin marche, on aura alors un outil très puissant pour lutter contre ces épidémies aujourd'hui et à l'avenir.
C'était le docteur Marie-Pierre Preziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la voie de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 6 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition,
Boko Haram a perpétré un autre massacre cette semaine au Nigeria.
L'Union européenne exhorte publiquement le président burundais à ne pas briguer un troisième mandat.
Poursuite aujourd'hui à Addis Abeba des pourparlers sur le Soudan du Sud. L'impasse entre Salva Kiir et Riek Machar persiste.
Abu Humam al-Shami, chef militaire du front al-Nosra, a été tué hier en Syrie.
Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, rassure les États du Golfe quant à un éventuel accord sur le nucléaire iranien.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Des militants présumés de Boko Haram ont attaqué un village dans le nord-est du Nigeria et tué au moins 68 personnes. Des témoins ont dit à un reporter de la Voix de l'Amérique que l'attaque contre la communauté de Njaba, dans l'état de Borno, a eu lieu avant l'aube mardi.
Selon Aminatour Momodou, une habitante du village, les femmes ont été épargnées, mais tous les hommes et même les garçons âgés de 12, 13 et 14 ans ont été tués. Elle ajoute que les femmes qui s'étaient cachées dans la forêt lors de l'attaque sont revenues pour dénombrer 68 corps. Les assaillants ont usé de balles ou simplement égorgé leurs victimes. Le village de Njaba est situé dans une région reculée de l'état de Borno, ce qui explique pourquoi la nouvelle n'est parvenue à Maïdougouri, la capitale, que 48 heures après.
Cette attaque est similaire aux raids de Boko Haram sur d'autres villages et localités du nord-est du Nigeria, où la violence s'est intensifiée à la suite de l'offensive lancée par le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun pour reprendre les secteurs occupés ces deux dernières années par Boko Haram.
Le représentant de l'Union européenne au Burundi, Patrick Spirley, ne souhaite pas une candidature du président burundais, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat à la présidentielle de juin. Le diplomate a mis en garde contre des risques de troubles, Jean-Roger Bion.
Les tensions croissantes au Burundi à l'approche des élections se cristallisent notamment autour de l'intention prêtée à M. Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Pour l'opposition, cela est inconstitutionnel, ce que réfute le camp présidentiel. M. Spirlet, représentant de l'Union européenne au Burundi, accompagné des ambassadeurs allemands, belges et français, a présenté la position européenne à l'issue d'un dialogue entre l'Union européenne et le Burundi. De nombreuses voix se sont exprimées par rapport à la question du troisième mandat et nous avons exprimé notre souhait au gouvernement que ces voix soient écoutées, a déclaré le diplomate européen. La communauté internationale s'inquiète publiquement depuis plusieurs mois des tensions à l'approche des élections, mais c'est la première fois que l'Union européenne prend position sur la question d'un nouveau mandat du président sortant.
L'émissaire spécial des Nations Unies en Libye est convaincu qu'un accord de paix est possible entre les parties en conflit. Parlant après la reprise des pourparlers de paix interlibyens hier au Maroc, Bernardino León s'est dit plus optimiste que ces derniers mois. Accompagné des médiateurs de l'ONU, il a rencontré séparément les délégués du gouvernement libyen et des extrémistes islamistes qui se sont emparés de Tripoli, la capitale, pour y établir un pouvoir séparé. Bien qu'il n'y ait jamais eu de face-à-face entre les protagonistes lors des trois précédents rounds de pourparlers, les officiels onusiens espèrent pouvoir organiser des entretiens directs entre les deux parties.
En revanche, c'est l'impasse à Addis Abeba dans la dernière série de pourparlers entre le président Salva Kiir et son rival et ex-vice-président Riek Machar pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud. À l'expiration jeudi de l'ultimatum de l'IGAD, les médiateurs ont prolongé les négociations qui seront axées aujourd'hui sur le partage du pouvoir. L'espoir était de boucler les discussions hier et de former un gouvernement de transition d'ici avril. Les combats qui ont commencé en décembre 2013 ont fait des milliers de morts, quelques 2 millions de personnes déplacées et 4 millions d'autres qui dépendent de l'assistance alimentaire étrangère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les autorités ont averti hier la police et le public de la nécessité d'être vigilants face aux tentatives du groupe État islamique de recruter des candidats au terrorisme à travers Internet. Cette mise en garde a été lancée par le FBI et le ministère de la Sécurité intérieure, dont un officiel a dit à l'AFP « Nous restons préoccupés par les efforts de recrutement faits par l'État islamique, particulièrement par le biais des médias sociaux, et nous invitons le public à la vigilance et l'exhortons à signaler aux forces de l'ordre toute activité suspecte. » La veille mercredi, le Washington Post avait signalé que le FBI avait arrêté un étudiant de 17 ans dans la banlieue de Washington pour avoir, dit-on, utilisé Internet afin d'aider un homme à aller se joindre aux djihadistes de l'État islamique en Syrie. Le FBI n'a donné aucun détail sur ce cas.
Abu Humam al-Shami, chef militaire du front al-Nusra, a été tué hier lors d'une attaque qui ciblait apparemment une réunion au sommet des dirigeants de cette branche syrienne d'Al-Qaïda. Plusieurs autres membres d'al-Nusra ont été également tués. Selon les médias d'État syriens, les forces gouvernementales ont lancé ce raid contre ces militants islamistes dans la province d'Idleb. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a de son côté annoncé qu'Abu Humam al-Shami a été tué, mais sans préciser par qui.
Un coup sévère et très douloureux a été porté à al-Nusra, a déclaré un responsable du groupe. Pour rappel, al-Nusra est moins connu que son rival, le tristement célèbre groupe État islamique. Il tente de renverser Bachar al-Assad et de créer un émirat dans le nord de la Syrie. Il a été aussi ciblé par les frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré des représentants des États du Golfe jeudi en Arabie Saoudite. C'était pour calmer leurs préoccupations au sujet d'un accord sur le nucléaire iranien. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
John Kerry est arrivé à Riyad mercredi soir après 3 jours de discussion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, en Suisse, visant à parvenir à un accord cadre avec Téhéran au plus tard le 31 mars. Les alliés du Golfe, en particulier le Royaume saoudien, craignent qu'un accord nucléaire ne soit pas suffisant pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme atomique. Ils craignent également un allègement de la pression internationale sur Téhéran, ce qui lui laisserait les coudées franches pour intervenir davantage dans les questions régionales. Le chef de la diplomatie américaine a cherché à les rassurer. « Même si nous nous engageons dans ces discussions avec l'Iran autour de ce programme », a dit M. Kerry aux journalistes, « nous n'allons pas détourner notre attention des actions de déstabilisation de l'Iran dans des endroits comme la Syrie, le Liban, l'Irak et la péninsule arabique, le Yémen en particulier ». Le groupe 5+1, réunissant la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et l'Allemagne, s'efforce de trouver un accord qui empêcherait Téhéran, rival régional de Riyad, de fabriquer une bombe nucléaire. Lors de cette visite en Arabie saoudite, John Kerry devait rencontrer le roi Salman dans la maison ancestrale de la famille Saoud. D'autres sujets de discussion incluaient la situation au Yémen et la lutte contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie.
Ici aux États-Unis, la famille de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier à Ferguson, une banlieue de Saint-Louis dans l'État du Missouri, en août 2014, compte porter plainte au civil contre le policier et la ville. Les précisions de Michel Joseph.
L'avocat de la famille a annoncé cette décision lors d'une conférence de presse hier. Nous voulons montrer, comme nous l'avons toujours estimé, que le policier Darren Wilson n'avait pas à tirer et tuer Michael Brown en plein jour, comme il l'a fait, et qu'il avait d'autres choix, a expliqué Maître Anthony Gray, que cite l'AFP. Maître Daryl Parks, un autre avocat de la famille, a précisé que la plainte visera le policier Wilson et la ville de Ferguson. Mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il n'allait pas poursuivre le policier Darren Wilson parce qu'il n'a pas constaté de sa part un comportement susceptible de poursuites judiciaires. Dans le même temps, le ministère a publié un rapport accablant faisant état de pratiques racistes généralisées de la police de Ferguson. La mort de Michael Brown le 9 août 2014 sous les balles de Darren Wilson avait donné lieu à des semaines d'émeutes violemment réprimées par la police.
Avec 800 navires privés déroutés pour secourir 40 000 migrants en mer en 2014, l'industrie maritime a eu à gérer un fardeau disproportionné, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À l'issue d'une conférence de 2 jours à Londres réunissant des ONG, des agences de développement et la marine marchande, le constat est sans appel. En 2014, 800 navires privés ont dû se dérouter pour venir au secours d'immigrants clandestins pour un coût estimé entre 50 000 et 80 000 dollars pour chaque propriétaire de navire.
Et maintenant, la Minute Éco et les sports avec aujourd'hui Timothée Donangmaï. Pour commencer, la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire, qui a connu des récoltes historiques de cacao en 2014, doit éviter le démon de la surproduction, a averti hier l'Organisation internationale du cacao pour le marché mondial. Il est difficile, voire impossible, qu'une production nationale passe d'1,3 million à 1,74 million de tonnes de cacao. 400 000 tonnes de plus, c'est énorme, a mis en garde hier Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO que cite l'AFP. Le président Barack Obama encourage les réformes en Tunisie en vue de relancer l'économie nationale et pérenniser les progrès démocratiques dans ce pays. Dans un message vidéo adressé hier aux Tunisiens à la faveur de la conférence sur l'investissement et l'entrepreneuriat à Tunis, le chef de l'exécutif américain a notamment déclaré « Comme vous, nous savons que la démocratie a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais aussi de croissance économique, d'opportunités pour que les citoyens constatent que la démocratie peut conduire à une vie meilleure. » Enfin, les compagnies aériennes American Airlines, Delta Airlines et United Airlines accusent leurs trois concurrents du Moyen-Orient, à savoir Qatar Airways, Etihad Airways et Emirates, d'avoir reçu 42 milliards de dollars de leur gouvernement en violation des lois de l'Organisation mondiale du commerce. Selon l'AFP, elles ont publié un rapport d'accusation de 55 pages demandant au gouvernement américain d'ouvrir des consultations avec le Qatar et les Émirats à ce sujet et aussi de geler l'attribution de nouveaux vols aux trois compagnies visées.
À présent, les sports team. Pas d'inquiétude pour la Coupe du monde de football 2022. Le Qatar l'organisera, quel que soit le calendrier retenu.
Hassan Al-Tawadi, le président du comité d'organisation du Mondial 2022, en a donné l'assurance hier. Le groupe de travail de la FIFA a recommandé le 22 février au Qatar que le tournoi se joue en novembre et décembre, mois les plus cléments dans ce pays, pour éviter l'implacable chaleur de juin et juillet lorsque la température dépasse les 40 degrés Celsius. Le comité exécutif de la FIFA se réunira les 19 et 20 mars à Zurich pour prendre la décision finale.
Avant cela, Vladimir Poutine veut limiter les dépenses du Mondial 2018 en Russie.
Alors que la Coupe du Monde 2014 avait provoqué de graves émeutes au Brésil, le président russe Vladimir Poutine a annoncé vouloir économiser plus d'un milliard d'euros sur l'organisation du prochain Mondial en 2018. Selon le journal espagnol AS, cette annonce contraindrait Sepp Blatter à revoir certaines de ses exigences à la baisse. Le président de la FIFA aurait, par exemple, autorisé la Russie à construire 2 stades de moins de 45 000 places, ceux de Kaliningrad et d'Ekaterinbourg, qui ne pourront accueillir que 35 000 spectateurs.
En Europe, le Sénégalais Papi Cissé de Newcastle United s'expose à une sévère sanction.
Il a reconnu avoir craché sur le défenseur Johnny Evans de Manchester United en match de Premier League mercredi. La nature de la punition n'est pas encore connue, mais les médias disent que Cissé pourrait écoper d'une longue suspension. L'incident en question, qui s'était passé à l'insu des officiels du match, avait été enregistré par les caméras.
Un mot de tennis avec la suite de l'Open malaisien à Kuala Lumpur.
La Danoise Caroline Wojniacki a défait la Chinoise Zhu Lin en 2-7, 6-4 et 6-1 pour avancer en quart de finale où elle croisera l'Allemande Karina Witthoff, victorieuse en 2-7 de la Tchèque Klára Kukalova, 7-6 et 6-0. Autre quart de finaliste à Kuala Lumpur, la Taïwanaise Xie Suwei, qui a sorti par 2-7 à 1 la Japonaise Misa Eguchi. Xie affrontera une étoile montante à la personne de la jeune Russe Elisaveta Kulishkova, championne en simple et double de l'Open d'Australie l'année dernière. Quelques résultats du championnat nord-américain de basketball, la NBA, pour terminer, Idrissa.
Au moins, ce résultat d'un match qui était fort suivi entre Chicago et Oklahoma City, malgré les 43 points de Russell Westbrook, OK City a perdu face aux Joachim Noah et Pau Gasol, 105-108 pour Chicago.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, à l'approche de la présidentielle du 15 avril, le climat est tendu dans le pays. Pour rassurer les populations qui redoutent des violences en cette période électorale, les organisations de la société civile s'impliquent dans des actions de prévention. Elles organisent des sessions de formation et de sensibilisation pour les différentes couches sociales du pays. Des échos dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ce contexte de tension inquiète les organisations de la société civile qui pilotent des projets pour la préservation des conflits électoraux. Pour le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement GF2D, la mobilisation communautaire pour la non-violence s'impose. Mika Fui Akwe, chargée de programme au GF2D.
Nous avons constaté qu'à l'approche des élections dans notre pays, surtout lorsque c'est une échéance présidentielle, il y a un climat de tension, d'inquiétude qui règne dû à des antécédents de violence. Donc il y a toujours cette inquiétude qui plane sur la population et qui justement débouche sur les actes de violence que nous voulons éviter pour cette fois-ci. C'est pour ça que nous avons pensé à un projet de mobilisation communautaire qui nous permet de vulgariser des comportements de non-violence, de paix, de tolérance.
Les leaders communautaires sont mis à contribution par les organisations de la société civile. Togbi Michel Nukafu III, chef traditionnel à Lomé, vient de suivre une formation sur la non-violence en période électorale.
Nous sommes dans une turbulence parce que les élections présidentielles s'approchent. Tout le monde ne sait que faire. Les gens ont peur. Alors le rôle des chefs traditionnels est fondamental. Le chef traditionnel ne joue pas le double jeu. Le chef traditionnel ne peut pas dire qu'il faut voter pour celui-ci, pour éviter la violence.
Depuis l'élection présidentielle de 2005, où des centaines de personnes y ont trouvé la mort, à la veille de chaque élection au Togo, des actions sont menées pour un scrutin apaisé. Ces activités de prévention sont interprétées par des observateurs comme pour préserver l'état de fragilité du pays. Sur la question, voici le point de vue de la coordinatrice du système des Nations Unies au Togo, Kardiata Lo Ndiaye.
En réalité, ce ne sont pas les élections qui causent le conflit. Les résultats peuvent contribuer à faire émerger les conflits. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a des conflits latents dans une société qui profitent du contexte électoral pour s'exprimer. Bien entendu, en période maintenant préélectorale, il faut mettre davantage l'accent puisque les germes de conflits sont beaucoup plus apparents du fait de la tension préélectorale.
Pour la non-violence, des internautes togolais s'engagent. Achille Noussia est internaute de paix.
Nous, internautes de paix, nous allons travailler pour amener les internautes togolais, qui ne sont pas forcément des internautes de paix eux aussi, à cultiver les vertus de la paix, à proscrire la violence de leurs actes quotidiens. Dans notre langage, on doit éviter des propos qui attisent la haine, qui appellent à la révolte. Ce travail se fera sur les réseaux sociaux. On a créé un hashtag « Peace for TG ». Puis en anglais comme paix, fort TG pour la paix au Togo.
Les Togolais se préparent la peur au ventre à choisir leur président pour le prochain quinquennat. 5 candidats sont en liste, dont le président sortant, Fornia Singbe, et le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Une décision de la Cour d'appel de Paris rendue en janvier dernier a confirmé des accusations de corruption du Niger par le géant du nucléaire Areva, accusation portée contre la société par l'Observatoire du nucléaire en 2013, lorsqu'Areva a accordé en pleine renégociation de contrat une aide budgétaire au Niger pour l'aider à acheter un avion présidentiel. C'est cette semaine seulement que la nouvelle est parvenue au Niger, entraînant du coup une salve de condamnation, nous dit notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
L'annonce de cette décision de la Cour d'appel de Paris confirmant la corruption de l'État du Niger par la société Areva a très vite fait réagir l'opposition politique. Elle demande la démission de 4 ministres dont les responsabilités sont établies dans l'achat de l'avion auquel l'argent a servi. Oumarou Hadari, membre de l'opposition politique.
Il s'agit là d'un acte gravissime qui finit de jeter le discrédit total sur le Niger. Nous voilà malheureusement, du fait de l'entêtement et de la surdité du gouvernement face aux interpellations de l'opposition politique, de la société civile et d'autres acteurs avisés que notre pays, le Niger, classé déjà dernier de la planète en termes d'IDH, se retrouve encore, de par la gestion de Youssouf Mahamadou, au rang des États corrompus et voyous. Face à la gravité de la situation, la RDR constate qu'il s'agit là d'une situation de grave compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol. Elle exige en conséquence une enquête parlementaire sur le financement et les conditions d'acquisition de l'avion présidentiel, la démission immédiate de Hassmi Massaoud, actuel ministre de l'Intérieur et directeur de cabinet du président à l'époque des faits, de Gilles Baillé, ministre des Finances, de Karidio Mahamadou, ministre de la Défense nationale, et de Omar Hamidou Tchana, ministre chargé des Mines.
Les organisations de la société civile actives dans le domaine des industries extractives se disent également profondément consternées après une telle annonce. Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAB, le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire.
C'est quand même une grande consternation de pouvoir constater que des autorités démocratiquement élues peuvent tomber dans cette situation de corrompu. Nous pensions bien que là, le gouvernement nigérien doit pouvoir sortir et s'expliquer sur cette question. C'est extrêmement grave de comprendre que, et d'entendre de par le monde entier que notre gouvernement a été faible vis-à-vis de Areva. Et la suite, vous l'avez vu, Areva a pu avoir tout ce qu'ils veulent au Niger. Ils ont décroché le renouvellement de Kominak et de Somaïr, qui jusqu'à aujourd'hui, ils refusent de signer, pendant que ça a été annoncé en grande pompe en octobre que ça a été signé. Et ça, je vous le dis, Areva aujourd'hui refuse de signer ces conventions. Et ils ont pu aussi mettre en stand-by leur réserve, c'est-à-dire Imouraren.
Le gouvernement nigérien n'a encore pas réagi après l'annonce de cette décision. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En République démocratique du Congo, le lancement officiel de la première récolte du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Bandundu a été effectué hier par le président Joseph Kabila. Au total, 20 000 tonnes de maïs sont attendues à l'issue de cette première phase, nous dit Eric Ambago de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
La première récolte du parc agro-industriel de Bukangalonzo a dépassé toutes les prévisions. En 7 mois, la production est maximale. 20 000 tonnes de maïs attendues à l'issue de la première phase. Le lancement officiel de la récolte a déplacé les principales autorités congolaises. En tête, le chef de l'État, Joseph Kabila. Pour le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, la production du parc de Bukangalonzo est exceptionnelle. Kabwemou.
Pour la première phase de la première année dont la récolte sera officiellement lancée aujourd'hui, a consisté au semis du maïs sur une superficie de 5 000 hectares. La production attendue est d'environ 4 tonnes par hectare, soit 20 000 tonnes pour les 5 000 hectares. Pour la deuxième phase, une autre étendue de 2500 hectares vient d'être plantée. En septembre de cette année, 10 000 hectares seront encore plantés, ce qui fera un total de 12 500 hectares de maïs pour cette année. Chaque année, 10 000 hectares seront plantés pour atteindre 50 000 hectares de maïs au bout de 5 ans.
La construction du parc de Bukangalonzo a impacté la vie dans la région. C'est le représentant du groupe sud-africain Africom, gestionnaire du parc, qui l'affirme.
As we said forth to commence with this agricultural revolution, what has been accomplished to date here on this piece of land leaves us astounded.
Au fur et à mesure que nous avançons avec cette révolution agricole, ce qui a été accompli à ce jour sur ce site ne cesse de nous étonner.
We have built more than 200 kilometers of roads.
Plus de 200 kilomètres de routes nouvellement ouvertes.
Permanent housing, which is an ongoing project.
Des maisons en dur sont en cours de construction.
A fresh water supply system.
De l'eau potable.
A fully functional airstrip with hangars that is still in construction.
Une piste d'aviation et des hangars ou des parkings pour les avions.
Outre la plantation du maïs, il est prévu la plantation des légumes sur 1000 hectares pour une production journalière de 500 tonnes. L'élevage des poules et de la viande de bœuf est programmé. Ce parc pilote sera le modèle pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Lancement en Guinée d'un essai de phase 3 pour tester l'efficacité du vaccin VSV-EBOV contre le virus à Ebola. Ce vaccin a été mis au point par l'Agence de la santé publique du Canada. Il s'agit de déterminer si le vaccin protège les personnes en contact avec des malades souffrant du virus à Ebola et si la vaccination des contacts permet de créer une zone tampon pour éviter la propagation de la maladie. D'autres précisions avec le docteur Marie-Pierre Preziosi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit des deux candidats vaccins contre la maladie à virus Ebola qui sont les plus avancés en termes de développement clinique. Donc le vaccin VSV-EBOV, produit par le fabricant Merck, et le vaccin SHAD3-EBOV, produit par le fabricant GSK.
La vaccination va commencer dans quelle région ?
Elle va commencer dans la région de la capitale, Conakry, et dans les préfectures qui entourent la capitale, soit la région de la Basse-Guinée, car c'est là, à l'heure actuelle, qu'il y a les cas.
Et vous allez, bien sûr, vacciner des personnes après avoir demandé leur consentement, etc.
Tout à fait. Oui, oui, il s'agit d'un essai clinique de phase 3, donc une étude clinique de phase 3, qui est faite selon les bonnes pratiques cliniques, qui requiert, bien évidemment, le consentement informé de tout participant.
Les vaccins développés par le Canada ont en fait rapidement émergé comme les outils prometteurs en raison de leur efficacité dans les études sur les primates non humains.
Tout à fait, oui. C'est bien cela. Et il y a eu aussi des études quand même chez l'homme qui ont aussi confirmé une bonne tolérance donc et une bonne immunogénicité. On ne peut pas encore parler d'efficacité. L'efficacité, c'est un terme qu'on peut employer lorsqu'on constate que ça empêche la maladie. Là, on constate qu'il y a une réponse du système immunitaire avec un développement notamment d'anticorps qui sont dans les limites qu'on pense être protectrices, mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit faire un essai clinique de phase 3. Ce qui est important, c'est que là, on doit vraiment retenir notre souffle parce que on pourrait rentrer dans une phase très importante pour cette épidémie et pour les futures épidémies Ebola. C'est que si on peut montrer qu'un vaccin marche, on aura alors un outil très puissant pour lutter contre ces épidémies aujourd'hui et à l'avenir.
C'était le docteur Marie-Pierre Préjossi, spécialiste des vaccins à l'Organisation mondiale de la santé.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, sur la voie de l'Amérique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la voie de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.